Oui, bien sûr.
C'est bon. La truffe, c'est quand même quelque chose qu'on savoure.
Effectivement, on peut trouver les molécules chimiques pour se rapprocher de l'odeur de la truffe, mais c'est de la fumisterie. Ce qu'on cherche à faire, c'est un produit avec un arbre, avec de la terre, avec de la passion, avec du temps, de la patience.
Mais vous savez, avec 20-30 grammes, vous pouvez vous faire plaisir et pour pas trop cher, quoi. Et le beurre truffé, je trouve que c'est quelque chose de génial. Avec des noix de Saint-Jacques, c'est fabuleux.
Voilà, surtout pas cuite, le plus cru possible.
Cette année, peut-être qu'on va faire une année exceptionnelle, mais les années où on n'a rien ramassé, c'est pareil. Le travail était le même et puis c'est encore plein de mystères, la truffe.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Pour la première fois en plus de 10 saisons, on va déguster, consacre une émission entière à la truffe noire. Tuber mélanosporum pour les intimes. À la seule évocation de ce diamant noir, alors on pense forcément luxe gastronomique, grand restaurant, addition salée. Certes, la truffe reste le champignon le moins démocratique de la cuisine française, mais on va vous montrer que non seulement elle est abondante cette année, ce qui mécaniquement fait baisser son prix, mais qu'en plus, elle peut être cuisinée davantage comme un condiment que comme un ingrédient. C'est ce que l'on va voir avec notre amie cuisinière Stéphanie Lequelec. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous allez bien Stéphanie ?
Très très bien.
Vous intervenez régulièrement à ce micro, vous êtes la chef 2 étoiles du restaurant La Seine, 32 avenue de Matignon dans le 8e arrondissement de Paris, avec le succès que l'on connaît. Vous êtes également à la tête de MAM, votre maison de cuisine, traiteur du 17e arrondissement, et vous êtes une orfèvre en matière de diamant noir, avec cette contrainte que vous vous êtes imposée, profiter du goût, du parfum de la truffe sans en mettre des tonnes, c'est ça l'idée ?
Bah exactement, on peut se faire plaisir tout en utilisant vraiment comme condiment pour venir exhauster un petit peu le goût de l'élément principal d'une assiette qui n'est pas forcément la truffe.
Très bien, deux recettes étonnantes en direct cuisinées par Stéphanie Lequelec sur la plaque de cuisson dont va déguster. Et puis on va vous raconter aussi, amis auditeurs, la vie secrète de la truffe. Et l'homme de la situation, c'est Jean-Charles Savignac. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous avez été pendant 25 ans président de la Fédération Nationale des Producteurs de Truffes. Vous en êtes aujourd'hui le président d'honneur. Vous avez été maire de Sorges en Périgord et vous êtes à l'origine d'un éco-musée de la truffe qui est toujours ouvert au public. Hein.
Ah oui, très largement, en toute saison.
Très bien, autant dire que vous avez consacré une grande partie de votre vie à cette passion pour la truffe, en parallèle d'une carrière de haut fonctionnaire, hein, puisque vous êtes aussi énarque. Vous avez travaillé, je crois, à la Cour des comptes, hein, c'est ça ?
Oui, absolument.
Et vous avez signé Truffe et Trufficulture, ou plus exactement co-signé avec Jean-Marc Olivier et Pierre Sourza aux éditions Fanlac, donc Truffe et Trufficulture, vraiment un ouvrage de référence, un ouvrage tout à fait panoramique sur la truffe noire. Et puis on partira à la chasse à la truffe dans vos terres. Jean-Charles Savignac a quelques encablures de Périgueux, c'est un reportage qu'on découvrira dans cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour les copains.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Jérôme.
Le tuffeau rencontre la mélanosporum.
Tuffeau, truffe, c'est ça ?
Tuffeau, truffe, ouais. Quand le tuffeau donne naissance à des vins qui finissent par truffer.
Très bien, et ben on a hâte de goûter ça avec vous. Et Éric Morin.
Il y a un adage médiéval qui dit qu'on ne se nourrit pas de la fumée du rôti, et ben on ne se nourrit pas non plus de la fumée, de l'arôme de truffe.
C'est ça, et il ne faut pas nous prendre pour des truffes, c'est bien ça. Hein.
Exactement.
On va voir ça avec vous tout à l'heure, vous avez compris qu'il sera question d'arôme, de synthèse, et puis si vous voulez mettre votre grain de sel dans l'émission, il y a d'ores et déjà beaucoup de réactions sur nos réseaux sociaux, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com, ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
En guise de mise en bouche, juste comme ça, les amis, pour se mettre en appétit, je vous propose de plonger la tête la première dans une recette emblématique à base de truffes. Vous avez peut-être une petite idée quand je dis recette emblématique à base de truffes. Alors bon, le répertoire est large, mais là on va parler brouillade. Voilà, la brouillade de truffes, leçon de cuisine avec Mathieu Chartron, le chef de la maison Gambert. Nous sommes à Tain-l'Hermitage, dans la Drôme.
Là, vous cassez un œuf.
Trois par personne, c'est bien. Puis donc, on va râper nos truffes, 4 à 5 grammes par personne. On va fouetter tout ça.
Donc là, vous mélangez les œufs à la truffe râpée. Hein.
Tout à fait, simplement. Un petit peu de sel, 4-5 tours de moulin à poivre. On va cuire nos œufs au bain-marie. On va mettre une noix de beurre d'environ 25-30 grammes à fondre dans ce cul de poule.
Donc là, vous versez dans la casserole.
On verse simplement notre mélange.
Le mélange d'œuf et de truffe.
Et truffe. Et là, on va venir effectuer un 8 dans la casserole. On va en avoir pour une bonne demi-heure de cuisson. Il faut un minimum de grumeaux.
Là, Mathieu, je ne sais pas combien d'huîtres vous en êtes, là, dans ce mélange entre les œufs et la truffe, mais on voit que ce mélange devient de plus en plus épais. Hein.
Les œufs ont commencé à coaguler, la truffe commence à chauffer, et là, vous sentez...
Ça sent, voilà. Ça sent. Là, je mets mon nez au-dessus,
La truffe commence à développer plus de saveur, plus de goût.
Je me sers directement dans le plat avec cette cuillère.
Alors là, on va couper des tranches de pain pour confectionner des mouillettes. Des mouillettes sur lesquelles on va mettre un beurre truffé. Et on viendra tremper donc nos mouillettes dans la brouillade.
Et bien voilà, la brouillade de truffe signée Mathieu Chartron de Maison Gambert. On est atteint l'Ermitage et c'est notre reporter Stéphane Combe qui a eu la chance d'y plonger sa fourchette. Bon, on voit que c'est la brouillade dans les règles de l'art. C'est-à-dire au bain-marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez ce protocole culinaire,
Évidemment, il fait partie de notre patrimoine. En revanche, pour les gourmands qui n'auraient pas envie d'attendre 30 minutes, parce que bon, parfois l'envie de truffe et d'œuf est soudaine, puisque c'est le mariage heureux, la truffe et l'œuf, un feu très doux. Et surtout, une casserole ou un petit sautoir très conducteur. Alors, on utilise du cuivre, éventuellement, feu très doux, un tout petit peu de beurre. Moi, je mettrais un peu moins de beurre au début, le 8, évidemment. Ça va venir coaguler gentiment, mousser, doubler de volume. Et en revanche, moi, les 25-30 grammes de beurre, je les mets à la fin, ça coupe la cuisson. Et ça vient comme ça amener le côté beurre cru, très gourmand. Ça vient enrober, ramener comme ça un côté soyeux, très agréable. Et alors, sur la truffe, moi, j'aime bien la truffe râpée fraîche comme ça à l'envoi parce que les effluves sont encore plus merveilleuses. Donc on pourrait opter pour moitié dans le début de brouillade et moitié râpée fraîche comme ça à l'envoi.
Jean-Charles Savignac.
Alors écoutez-moi, c'est une recette remarquable. La seule remarque que je ferais peut-être quand même, c'est sur la quantité. Je monterai peut-être un peu jusqu'à
Ah le gourmand, faut dire qu'il a été élevé à la truffe, hein, Jean-Charles Savignac, on ne se refait pas évidemment. Petite question, crème fraîche ou pas crème fraîche dans
Jamais.
La brouillade de truffe?
Jamais. Pas de crème dans les œufs brouillés.
Vous êtes catégorique là-dessus. Hein. On dit souvent qu'il faut faire séjourner la truffe un certain temps, Jean-Charles Savignac, notamment dans un bocal avec les œufs. Et ces œufs vont servir évidemment à confectionner la brouillade. Alors, est-ce que c'est, selon vous, une bonne stratégie? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Et si c'est le cas, combien de temps on fait séjourner justement ces truffes dans le bocal hermétique avec les œufs?
Oui, c'est un procédé qui est excellent. Ça permet de capter à l'œuf de capter les arômes de la truffe.
Car la coquille est poreuse.
Voilà, la coquille est poreuse. Alors, il faut le faire, si on est pressé, 24 heures. Sinon, allez, au maximum 48 heures. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas la peine de laisser trop longtemps, hein, bien sûr.
Et si on le fait pas, on n'appelle pas la police?
Non plus, voilà.
D'accord. On entendait beurre truffé, Stéphanie Lekalec, car cette brouillade était en plus accompagnée d'une petite tartine au beurre truffé en trois gestes. Comment on s'y prend?
Un beurre demi-sel de grande qualité, un fermier au lait cru si on peut, voilà, dans les règles de l'art, un petit peu jaune de race, voilà, laitière qui vont donner du goût, dont on sent la pâture dans le beurre, tempéré, voilà, et simplement on va le travailler avec cette truffe râpée crue. Et on va le travailler longtemps, comme ça, à la fourchette, voire même au fouet, pour lui donner une texture, pour foisonner un petit peu, comme on appelle. Et là, par contre, effectivement, il faut laisser reposer 24-48 heures le temps, parce que le corps gras va absorber toutes les odeurs. Il s'avère que la truffe est très odorante, donc il faut quand même laisser le temps au temps. En revanche, bien protéger dans un récipient hermétique.
Très bien. Jean-Charles Savignac?
Oui, juste une remarque. On parle de beurre truffé. Moi, j'aimerais mieux parler quand même de truffe, de toast beurré. Vous voyez que les choses qui mettent la truffe en avant d'abord.
D'accord. Eh ben, écoutez, on peut pratiquer aussi la tartine avec du beurre et puis effectivement des lamelles de truffe. Jérôme Gagnaise?
Oui, à propos de très bon beurre, nous goûtâmes ici, grâce à Hugo Rollinger, le beurre de madame.
Ah oui.
De Froment du Léon qui était clairement, absolument exceptionnel et qui se prête exceptionnellement bien à l'exercice avec la truffe.
Et puis d'un jaune, d'une couleur jaune époustouflante.
Ça, c'est la race Froment du Léon qui donne vraiment cette caractéristique. Ah, ouais.
Absolument. C'était vraiment dingue.
Aux quelques auditeurs qui s'énerveraient derrière leur poste de radio en se disant « Ouh là là, mais la truffe, on va la râper sans compter ». Alors sachez d'abord que
Pour nous, la truffe, c'est loin d'être tous les jours, à part, oui, sauf peut-être pour Jean-Charles Savignac qui en mange son poids tous les mois d'hiver, j'imagine. Et sachez en plus qu'on va voir que s'offrir les plaisirs de la truffe, eh ben, c'est un peu plus facile cette année. La récolte est abondante, les prix baissent et c'est ce que l'on va voir. Mais juste avant, on fait une petite pause musicale. Derrière la vitre de la régie, Laurent Thomas, Tiffany Battistel, Nadia Chougui, Djoubaka s'occupent de la programmation et on perce les mystères de la truffe après un petit coup de néo-flamenco. La rappeuse catalane Rosalia avec The Weeknd pour le titre La Fama. Bon appétit sur France Inter. Sacrum, sacrorum des gastronomes, à ce nom que les gourmands de toutes les époques n'ont jamais prononcé sans porter la main à leur chapeau. Vous avez interrogé les savants, leur demandant ce que c'était que ce tubercule, et après 2000 ans de discussion, les savants vous ont répondu, comme le premier jour, « Nous ne savons pas ». Vous avez interrogé la truffe elle-même, et la truffe vous a répondu « Mangez-moi ». Et adorer Dieu, c'est par ces mots que commence le long article qu'Alexandre Dumas consacre à la truffe noire dans son grand dictionnaire de cuisine publié en 1873. Alors à l'époque, Jean-Charles Savignac, la truffe est entourée de mystères, nous ne savons pas, disent les savants. Aujourd'hui, 150 ans après, est-ce que les scientifiques en savent un tout petit peu plus ?
Oui, 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 bien sûr. Non, non, la science a fait des progrès énormes, mais déjà au XVIIIe, XIXe siècle, on commençait à cerner le sujet très, très activement. Non, la truffe, c'est un champignon. C'est un champignon donc symbiotique, hypogé et comestible.
Oula, c'est quand même alors là, vous employez des gros mots. Il faut qu'on revienne dessus. Quatre mots clés: champignon, symbiotique, hypogé, comestible. C'est ce que j'ai retenu de votre propos. Alors champignon, ça ne fait pas de doute.
Ça fait aucun doute maintenant. Mais il faut dire que les champignons, c'est un peu spécial dans le vivant. Les champignons, on se demande si c'est entre le végétal ou l'aspect plutôt animal et tout. Alors maintenant, on a classé à part les fungi, les champignons, et donc là, c'est clair, la truffe est un champignon exceptionnel, hein, particulier par rapport à d'autres. On pourra y revenir. Alors c'est un champignon effectivement symbiotique. Alors il a besoin d'être associé à une autre plante, un arbre en général, mais aussi il y a d'autres plantes qui peuvent vivre avec la truffe. Alors l'aspect hypogé, il faut le traduire, c'est souterrain, hein, on la voit pas. Et c'est ça le mystère de la truffe, hein. Elle est sous le sol, elle se développe et on la découvre, hein. Ça entretient le mystère,
hein. C'est ça.
Et heureusement, elle est très comestible et éminemment recherchée par les gastronomes,
hein. C'est ça. Il y a un mot que vous n'avez pas employé, qu'on associe souvent à champignons, c'est mycorhize, ou adjectif mycorhizé, le participe passé, mycorhizé.
Oui, alors ça c'est un détail un peu du règne de la vie de la truffe, hein. Dans l'association entre l'arbre et la future truffe, l'ascocarpe, il y a sur les racines de l'arbre des mycorhizes qui vont pousser et qui vont permettre après la germination de l'ascocarpe, qui est la partie qu'on consomme de la truffe.
C'est ça.
C'est très subtil, cette alliance entre l'arbre et la truffe, et ça explique qu'il y a des échanges entre l'arbre qui reçoit le soleil, qui capte la lumière, et la truffe qui est dans le sol, qui va, elle, capter l'eau, des minéraux également, et qui va les faire remonter à l'arbre. Il y a un échange, et ça c'est... On a mis du mal à le cerner, mais maintenant, vous savez, avec la recherche atomique, avec le génome, on arrive à bien voir les échanges entre les uns et les autres, bien qu'il reste encore des incertitudes.
C'est ça, il y a encore des mystères autour de la truffe, et sachant que cette symbiose entre ce champignon et l'arbre, évidemment, s'effectue, se pratique dans des conditions de climat, de sol, de nature de sol particulière, et pas n'importe quel arbre, évidemment, on va y revenir, mais bien globalement, l'histoire d'amour entre la truffe et l'arbre, ça ne concerne que quelques espèces.
Oui, ça concerne essentiellement le chêne, il y a différents chênes, mais il y a aussi des tilleuls, il y a des charmes, des noisetiers, pour prendre les plus communs, mais l'association est beaucoup plus large, hein. Il y a même des pins, des variétés de pins qui portent de la truffe, j'en ai récolté encore récemment. Il y a une large palette d'arbres producteurs de truffes qui accompagnent les truffes également. Et les échanges sont assez complexes. Il y a une sexualité de la truffe. Alors, on a découvert ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Pour reproduire la truffe, il faut que les spores... Il y ait des pères et des mères. Alors, un des problèmes actuels, c'est que vous avez dans le sol beaucoup de mères et on cherche les pères. Voilà, c'est le dernier état de la recherche actuellement. Voilà.
C'est ça, et la recherche est toujours très active autour de ce champignon mystérieux. On a dit champignon, on va dire un mot de sa famille botanique.
Oui, c'est un champignon tubéracé, de la famille tubéracé. Ça vient du latin, hein. C'est un champignon qui est lié à la terre.
Comme tubercule d'ailleurs.
Comme tubercule.
C'est, même voilà. Si je crois que la truffe n'est pas un tubercule.
Alors pas voilà, on veut pas faire cette alliance avec les tubercules ordinaires, disons.
C'est ça, absolument. Combien d'espèces dans la grande famille des tuberacées?
Alors dans les espèces, il y en a beaucoup, hein. Si on fait le tour du monde entier, les botanistes en ont trouvé des centaines, hein. Mais en fait, quand on regarde en Europe quelles sont les espèces que l'on utilise actuellement, vous avez cité Tuber melanosporum, la truffe noire dite du Périgord. Mm-hmm. Vous avez ensuite une variante brumale, et puis vous avez aussi des truffes d'été, truffes Tuber estivum. Hein. Alors à côté de ça, vous avez les Italiens qui ont une truffe blanche différente,
et oui.
Tuber magnatum, la truffe exceptionnelle. Hein, qui...
Emblématique, la truffe blanche d'Alba.
Voilà, Alba, mais d'autres parties de l'Italie aussi. Hein. Elle est assez généreusement distribuée en Italie aussi. Hein.
Très bien. Voilà, on commence.
Et puis il y a d'autres variétés également en France. Uh-huh. Vous avez la truffe de Macrosporum. Vous avez
Incinatum, la truffe de Bourgogne.
Incinatum. Alors, elle est liée maintenant à Estivum. On ne fait plus la distinction tellement entre les deux.
Très bien. Parlons de ce millésime 2021-2022. est-ce ? Et puis on va demander évidemment à Stéphanie Lequelec son ressenti en termes de chef cuisinière. C'est un bon millésime pour la truffe noire, vous nous le confirmez ?
Alors, il y a une quantité certaine, la production est abondante. L'an passé, c'était pas ça, hein, mais cette année, voilà, il y a eu des pluies assez régulièrement, pendant le printemps, pendant l'été aussi, malheureusement pour les touristes, mais heureusement pour les trufficulteurs. L'automne a été pluvieux, et effectivement, le problème actuellement, c'est le gel dans certaines régions. Hein.
J'entendais Jean-Michel Golinski annoncer dans le bulletin météo de la matinale de France Inter ce matin à 7h32, 7h33, moins 8 en Dordogne. Est-ce une menace, un danger pour la truffe ?
Alors oui, effectivement, un gel profond et continu peut dégrader les truffes, hein, elles vont geler. Alors heureusement, à côté de ce moins 8, ça remonte l'après-midi, et actuellement en Dordogne, vous avez du plus 3, plus 4, donc c'est pas permanent, le gel n'est pas permanent, comme ça a été le cas de certaines fois. Et quand le gel est permanent, c'est désastreux pour la trufficulture, évidemment. Mais bon, on peut espérer actuellement encore sauver les choses, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps.
Et évidemment, Stéphanie Lequelec, la saison de la truffe à la Seine, votre restaurant 2 étoiles, avenue Matisse, Paris 8e.
Bah là, on est en pleine saison. Alors, on la démarre un tout petit peu avant les fêtes. Là, cette année, j'ai démarré autour du 15 décembre. Et elle était pas mal. Ses premières truffes étaient déjà mûres. Alors, elles étaient chères, mais elles étaient mûres. Ce qui est assez rare, parce que souvent, c'est un peu timide. On en achète, mais enfin, elle est claire, elle n'est pas très marbrée. Ça, c'est plus visuel que gustatif. Or là, dès mi-décembre, elle était plutôt jolie. Là, on est sur la quintessence. Hein, 15 janvier, 15 février, ça va être là qu'elle va être la plus magnifique. Donc on se fait plaisir en ce moment à la Seine, oui.
Donc là, le cœur de la saison, en tout cas, pour profiter vraiment des arômes de la truffe, c'est 10 janvier, 10 février, vous êtes d'accord, Jean-Charles Savignac?
Oui, c'est actuellement le summum, hein, 15 janvier, voilà, c'est parfait. Hein.
C'est ça. Est-ce que l'abondance de truffes fait mécaniquement baisser le prix de la truffe ?
Alors ça, c'est un problème sérieux, parce que en fait, il faut savoir que nous sommes sur un marché déficitaire de la truffe. Il n'y a pas assez de truffes pour répondre à la demande. Voilà. Alors, à partir de là, évidemment, les fluctuations de quantité jouent, mais un petit peu à la marge. Hein. Structurellement, il y a plus de demandeurs de truffes que les producteurs peuvent en fournir. Hein. Alors, c'est une situation qui est complètement renversée, mais qui ne doit pas inquiéter particulièrement. En fait, on constate qu'il y a un siècle, on avait 1000 tonnes de truffes en France. Actuellement, on n'en produit plus que 60 tonnes à peu près. Hein. C'est donc très limité.
Hein.
Vous voyez, et les 1000 tonnes de truffes se vendaient sans aucun problème il y a un siècle.
Ah oui, donc...
Voilà.
Mais si je peux me permettre d'illustrer le propos, l'an dernier, par exemple, il y en avait moins, vous l'avez dit, François Régis. Oui. En revanche, les restaurants étaient fermés. Elle était paradoxalement... pas très cher l'année dernière, oui. On a eu, voilà, comme les restaurants n'en consommaient pas, malgré une production plus faible, on avait un tarif qui était potentiellement plus intéressant que cette année.
Question indiscrète, Stéphanie Lequelec, vous, la truffe, elle vient d'où et vous la touchez à combien en tant que professionnel ? À combien vous pouvez espérer, par exemple, l'acheter en ce moment ?
En ce moment, on est entre 700 et 800 euros le kilo hors taxe, puisque ouais. Les professionnels en parlent hors taxe. Et ça varie. J'ai 2-3 personnes qui me les sourcent. Et donc, on varie. Ils passent tous les jours et je trie moi-même, je choisis moi-même les truffes qui vont être servies à la Seine.
Prix constaté dans certaines épiceries parisiennes, 3000 euros le kilo, c'est du délire.
Non, ça s'explique un petit peu. La situation des épiceries en question est évidemment très particulière. Ils ont des charges. Hein, et surtout, ils ont une clientèle. Donc, c'est l'essentiel. Sur les marchés, il faut distinguer, vous savez, actuellement, les marchés de détail, en Périgord, par exemple, actuellement, le cours de la truffe, c'est entre, selon la qualité des truffes, c'est entre 600 et 900 euros, à peu près.
D'accord.
1000 euros, c'était avant Noël. Hein. Maintenant, ça y est, voilà. Alors, on est
600 et 900 euros pour un particulier qui se rendrait sur un marché pour l'acheter pour lui.
Un marché de détail. Alors maintenant, sur les marchés de gros, et évidemment le prix est inférieur parce que le marché de gros, le commerçant achète toutes les truffes et donc il doit trier après, donc le prix est inférieur. C'est plutôt 400-500 euros, hein, voilà.
C'est ça.
Pour donner un ordre de grandeur.
Très intéressant. On commence avec une première recette que Stéphanie Lequelec est en train de dresser sous son micro dans de petites coupelles.
Ouais.
Et là, on va avoir affaire à un mariage qui mélange les classes sociales, si j'ose dire. On est entre le poireau, qu'on appelle communément l'asperge du pauvre, donc on est plutôt sur un légume modeste.
Mais que j'adore.
Avec cette fameuse truffe. Racontez-nous.
Bah, justement, moi, les mariages comme ça, un petit peu, enfin, pas atypiques, mais disons pas convenu, m'intéresse. Donc là, on a réinterprété, oui, le poireau vinaigrette, mais enfin, le poireau cuit à la ficelle dans un bon bouillon de pot-au-feu.
Ah, ça y est, joli.
Que je verse d'ailleurs autour. Une petite vinaigrette. Dessous, j'ai mis un ragoût de topinambour à la moelle et châtaigne. Et puis, je vais râper un peu de truffe.
Ah, génial. Magnifique. Alors, je vous propose que l'on termine justement cette petite recette. Vous allez nous l'expliquer, mais on va faire une petite pause champêtre. La truffe, effectivement, a vraiment des racines paysannes, et c'est ce qu'on est allé voir en faisant une petite virée champêtre dans le Périgord. Je vous emmène dans le département de la Dordogne, alors qu'on entend la râpe à truffe sous le micro de Stéphanie Lequelec. Département de la Dordogne, on va donc chez vous, Monsieur Savignac, à quelques pas de Périgueux, en pleine saison de la truffe.
Donc moi je suis Xavier Bonté, je suis président du groupement des trufficulteurs de Saint-Pantaly, qui est une composante de la Fédération départementale des trufficulteurs du Périgord. Alors ici on est tout à côté de Périgueux, c'est-à-dire que on sort de la ville et hop, on est déjà dans les champs. Donc on peut dire qu'en Périgord, le bonheur est dans la truffière, et nous plantons environ 150 à 200 hectares de truffières chaque année en Dordogne. Il reste encore quelques truffières spontanées, c'est 80-90% de truffières plantées. Alors ici, vous êtes à Coulounier-Chamier, dans la truffière de Michel Duponteil. On est sur des calcaires crétacés, des calcaires blancs. C'était des bois, c'était des vignes. Maintenant, ce sont des céréales, ce sont des truffières et ce sont des bois.
Michel Duponteil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc trufficulteur ?
Trufficulteur, je suis à la retraite et puis la truffe, c'est une passion. Après, j'ai mon neveu et ma fille qui sont vraiment des grands passionnés aussi.
Quand on se lance dans la trufficulture, concrètement, en fait, on a un terrain et on plante des essences d'arbres mycorhizées, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Nous avons 178 arbres.
On voilà. Peut s'approcher un peu ?
On va aller dans la...
Alors, il y a même carrément une clôture.
Quand les arbres sont jeunes, ils nous attaquent les arbres.
C'est pas des animaux qui viennent manger les truffes ?
Le blaireau, les déterres, le sanglier aussi, puis aussi pour les deux pattes.
Il y a quelqu'un qu'on n'a pas présenté, là ?
Ah, alors ça, c'est la chienne de mon neveu.
Bonjour, je m'appelle Fabien Barbary, le neveu de Michel. Voilà, moi je baigne dans la truffe depuis tout petit.
Ah, d'accord.
J'ai été élevé à la truffe.
Et il y en a une qui a été élevée, ou un qui a été élevé à la truffe aussi ?
Une fille, une demoiselle, elle s'appelle Loani, elle va avoir 10 ans. Elle, je l'ai dressée pour chercher la truffe. Voilà, c'est un chien qui est calme, qui écoute bien et qui fait son boulot par passion aussi. C'est un border collie. Chien noir et blanc, chien de berger à l'origine. À la base, il faut que ça reste un jeu pour le chien. Donc on la dresse avec des arômes de truffe qu'on met dans une balle ou autre, on lui cache la balle, il faut qu'elle la trouve, qu'elle la ramène, qu'elle joue avec, et puis après on passe sur le terrain, quand elle a trouvé la truffe, on la récompense, un morceau de fromage.
Loani ?
Non, ça c'est ma bonnette, c'est pas une truffe.
Dans cette parcelle, j'ai du chêne vert, chêne pubescent et quelques chênes cerises.
Loani ? Allez, viens, on va chercher les truffes.
Non,
allez, tiens.
Moi, je crois
pas. Alors, je donne un petit bout de fromage pour lui signaler le départ.
Ah, elle en a marqué une.
Loani, dès qu'elle trouve la truffe, elle donne un coup de patte. Et moi, j'ai un petit cliqueur qui a un petit signal comme ça. C'est bon, on a compris, on sait qu'il y a la truffe, tu peux arrêter. Et elle ne recommencera pas à travailler tant qu'elle n'a pas eu sa récompense.
C'est bien. On regarde Kenny. L'odeur, si vous vous penchez, vous sentez directement l'odeur de la truffe.
Elle sent.
Vous pouvez même sentir la terre. Oui, elle sent.
Elle sent.
Ça sent même de là, c'est incroyable.
Il faut bien faire attention parce que la truffe est fragile. Ouais. Donc le principe, c'est de bien dégager autour de la truffe. Nous, on reste naturel avec une corne de chevreuil.
Et là, vous voyez effectivement un petit, donc, voilà, un petit dôme.
On voit le noir qui dépasse de la truffe. On va la dégager autour. Dès qu'on sent qu'elle bouge, on peut la sortir tranquillement avec la main. Voilà. Donc là, hop. Et là, on peut la sortir. Voilà.
Alors je vais voir si elle est bonne, si elle est noire.
Quand on canifle la truffe, on voit à l'intérieur le veinage de la truffe. Et une truffe qui est bien mature, c'est une truffe qui va être vraiment noire à l'intérieur avec un veinage blanc.
Mais on parle bien d'une tubère mélanosporum.
La truffe du Périgord, c'est son nom français.
Mais ça veut dire qu'à Richeranche ou dans le Vaucluse... on...
C'est une truffe du Vaucluse.
Et pour moi, la meilleure truffe est à Coulounier.
Ah, carrément, c'est-à-dire que même dans le Périgord, il y a plusieurs degrés de qualité.
Ah oui, il y a plusieurs
territoires. On a eu la chance de
trouver de suite ici. C'est bien, c'est bon.
Merci à Xavier Montet, président du groupement des trufficulteurs de Saint-Pantaly d'Exideuil. C'est Xavier Montet qui nous a aidé à monter cette émission, mais également ce reportage dans le Périgord. Et c'est aussi Xavier Montet qui nous a conduit jusqu'à vous, Jean-Charles Savignac. On sent d'ailleurs, j'ai tâté le terrain il y a quelques semaines, une belle solidarité entre professionnels de la truffe. Et je crois même savoir que la Dordogne est un département particulièrement dynamique en termes de trufficulture.
Oui, c'est un des départements anciens où on a relancé la trufficulture. Dans beaucoup de régions de France, il y avait une production de truffes naturelle, spontanée. On ramassait les truffes un peu dans les bois au hasard. Et puis, au début du 19e siècle, on s'est mis à faire de la trufficulture. Alors, il faut rendre hommage aux trufficulteurs du Sud-Est qui ont été parmi eux aussi les premiers à lancer la trufficulture. On a dressé une statue à Joseph Talon, même à Saint-Saturnin-les-Aptes, dans le Vaucluse, donc qui est une éminente région de production, comme toute la Provence d'ailleurs. Hein. Les proportions, c'est surtout la Provence qui produit le plus de truffes actuellement en France, et puis ensuite le Sud-Ouest, hein, pour prendre les choses très largement. Alors, la trufficulture, c'est devenu, dans le Périgord, parce que des gens ont transposé des plantations, une façon de planter, et ça a bien marché, il y a eu une très belle réussite, accéléré par la crise du phylloxéra qui a détruit le vignoble, et on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des truffières dans le vignoble. Et ça a marché de façon exceptionnelle. Donc il y a une production très forte qui s'est développée à partir des années 1830-1850. C'était un très, très grand succès pour la trufficulture.
D'accord. Et la trufficulture, effectivement, en Dordogne, encore une fois, une belle énergie.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui se passionnent pour la trufficulture, et je crois qu'il y a un potentiel qui va exploser bientôt.
C'est ça, on en parlera peut-être, parce qu'il y a aussi la concurrence de l'Espagne qui se met à faire presque de la trufficulture intensive, laissant un peu les Français à la ramasse.
Oui, alors ça c'est, vous savez, comme je le disais, comme la production est déficitaire globalement, il faut pas trop s'en inquiéter. Bon, il y a des ajustements sur le moment, mais actuellement, donc, les Espagnols ont appris les leçons que nous avions mises en place, et ont particulièrement bien réussi dans la région de Teruel, autour de Sarrionne, dans toute cette partie de l'Espagne, on voit une production qui est actuellement très mécanisée, de grandes surfaces qui sont plantées en matière de trufficulture, avec des résultats, et ces résultats, bon, ils produisent des quantités, mais effectivement avec des méthodes qui sont très éloignées des méthodes un peu plus artisanales que l'on peut pratiquer dans les campagnes françaises.
Restons sur la trufficulture extensive pour des truffes de qualité. Que pensez-vous, Jean-Charles Savignac, de ces poireaux truffes de Stéphanie Lequelec?
Remarquable, c'est un mélange vraiment de saveurs et de parfums qui est tout à fait exceptionnel.
Alors on part d'un poireau vinaigrette, hein, c'est bien ça, donc il y a une cuisson du poireau.
Cuisson du poireau à la ficelle dans un petit bouillon de pot-au-feu, bouillon de volaille, bouillon de légumes si on n'a pas. Et puis simplement, après, on va les servir tièdes, une petite vinaigrette où on met un petit peu de truffe, vinaigre de Xérès, huile d'olive. Moi, je sers le bouillon de pot-au-feu avec, j'aime bien. Et à côté de ça, je fais revenir quelques petits dés de topinambour dans un tout petit peu de beurre, quelques dés de châtaigne, quelques dés de moelle, un peu de râpé de truffe, et ça vient comme ça faire un petit coussinet pour y déposer le fagot de poireau. Une fine râpée de truffe. Alors, moi, je voudrais dire un mot sur le choix de la taille de la truffe en cuisine.
Oui.
Parce que on taille pas forcément la truffe de la même manière en fonction du plat. On a parlé d'une râpée de truffe tout à l'heure dans la brouillade. Ici, j'ai choisi une petite chiffonnade, c'est-à-dire des tranches assez fines qui vont venir enrober un tout petit peu le poireau et venir supporter la fibre du poireau. Et vous verrez que sur la prochaine recette, j'ai opté,
Julienne,
pour un autre taillage. Vous m'avez vu faire en direct François Régis avec un couteau de fortune. Mais oui, parce que là, je vais chercher plus de mâche, ces petits bâtonnets. Voilà, donc il faut toujours aussi réfléchir l'épaisseur et la taille de la truffe en fonction de la préparation et de la structure du mets qui va le supporter.
Très important. Merci Stéphanie Lequelec pour cette petite précision concernant le taillage de la truffe. Il est vrai qu'on peut intégrer, convoquer ses parfums et sa saveur exceptionnelle avec des tailles de techniques différentes. Est-ce que Jérôme Gagnez a aimé cet accord poireau-truffe? A-t-il trouvé éventuellement un mariage d'amour avec un copain liquide? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans un instant.
On va déguster sur France Inter.
Il y avait une première question. Vous aimez?
Oui.
Poireau truffe?
Oui, j'aime.
Bah, comment
beaucoup.
Ça, évidemment?
Alors,
comme vous avez toujours la dent dure, c'est pas si bien.
Non. Nous le goûtâmes ensemble pour une émission de télévision il y a quelques mois.
On peut le dire. Bon, ça y est. Il divulgage notre vie privée.
Et, non, c'était tourné. Non, c'était pas privé.
Absolument.
Mais oui, c'est très bon. J'aime beaucoup ce petit ragoût en dessous qui est absolument formidable, qui apporte une mâche un peu différente, un relief.
Un peu de gras.
Du gras, et Dieu sait si le gras est important.
Oh, ça y est, c'est reparti.
Et donc oui, j'aime beaucoup. Et ça faisait un accord intéressant avec le vin dont je vais vous parler. Je suis très, 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 très... Alors, d'abord, goûtez-moi ce vin, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez.
Jean-Charles Savignac, si vous êtes amateur, Jean-Charles, Stéphanie.
Jean-Charles Savignac.
Oui, Stéphanie. Je veux d'abord qu'il a un nez remarquable.
Oui.
Et puis, en bouche également, il est long. Il accompagne remarquablement la truffe aussi. Hein.
Oui, alors c'est pour ça qu'évidemment, je l'ai choisi.
Ça sent le millésime un peu ancien.
Je vous parle aujourd'hui d'un vigneron, probablement un des vignerons que je préfère parmi tous les vignerons que je connais en France. J'aime énormément les vins de ce vigneron. J'aime beaucoup ce vigneron, j'aime son travail. Nous sommes à Mont-Louis.
Ah, je connais vos goûts.
Ouais, Mont-Louis, c'est une appellation qui fait 450 hectares sur la rive gauche de la Loire, en amont de la ville de Tours, donc à l'est de la ville de Tours. C'est presque en face de Vouvray, mais Vouvray c'est beaucoup plus grand. Mont-Louis est parfois un peu moins connu. Eh bien, c'est très dommage parce que c'est une appellation absolument extraordinaire qui a vécu une sorte de renouveau à l'orée des années 2000 avec un grand nombre d'installations de jeunes viticulteurs. Tous n'ont malheureusement pas confirmé leur installation. C'est un métier qui est extrêmement difficile. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Mais François Chiden, lui, il est installé depuis 1989 sur l'appellation Mont-Louis. Il a aujourd'hui une bonne trentaine d'hectares, 20 hectares en Mont-Louis, 10 hectares en Vouvray, et puis 37 parce qu'il y a 7 hectares en Touraine. Ce garçon a eu très tôt l'intuition qu'il fallait avoir des pratiques culturales qui soient propres, donc il s'est converti à l'agriculture bio dès 1992, a suivi ensuite une conversion à l'agriculture en biodynamie en 1999, donc ça fait un moment qu'il travaille sur ces sujets. Il est profondément amoureux de ses terroirs et de son vin, et il livre une partition de Mont-Louis que j'aime énormément, parce que il y a pour moi la pureté d'expression, une très grande élégance, un caractère cristallin dans les vins, et pour autant on n'abdique pas une expression nette de chacun des terroirs. Nous dégustons là en ce moment un vin qui s'appelle Mont-Louis Les Bournais 2008. C'est un vin qui truffe depuis un petit moment déjà. Ouais. Il y a des arômes de truffe qui sont très intenses. Il a eu l'extrême gentillesse de m'en envoyer deux bouteilles. Et c'est très très gentil de sa part parce que c'est un vin qui est absolument extraordinaire. Amis auditeurs, vous pouvez acheter le même en 2020. Les plus patients d'entre vous seront récompensés parce que avec presque certitude, vous aurez quelque chose qui va truffer au bout de quelques années. Donc précipitez-vous chez Manuela et François Chiden.
Quels sont les prix de ces cuvées ?
On est entre 23 et 30 euros la bouteille. Donc évidemment, c'est un peu plus élevé que ce que je dis d'habitude. Mais quand vous voyez la qualité du vin qu'on a dans nos verres et la qualité des vins que produit François Chiden et le prix auquel il les propose, eh bien allez vous balader dans d'autres régions et vous verrez que ces prix sont extrêmement honnêtes et ce sont des rapports qualité-prix exceptionnels. Vraiment, c'est un vin tout à fait extraordinaire. Le tuffeau, cette craie jaune, très très typique de Mont-Louis, apporte une fraîcheur, une dimension minérale qui est très intégrée dans le vin. Et après, c'est la magie du travail de François Chiden en cave, avec des vinifications très justes, très fines, et un élevage qui est parfaitement adapté. C'est-à-dire que l'élevage, c'est des demi-muits, donc c'est des contenants de bois qui sont assez grands, ça respecte beaucoup le vin. L'élevage est réellement là pour sublimer ces très très beaux raisins qui sont récoltés sur la propriété. Un petit mot sur l'arôme de truffe dans le vin.
Oui,
je me suis renseigné.
Vous êtes entouré des lumières de notre ami Gabriel Lépouzé, de l'Institut Pasteur.
J'ai appelé évidemment Gabriel Lépouzé. J'ai aussi appelé Axel Marchal, qui est un œnologue bordelais, qui m'a dit des choses très intéressantes. En gros, et c'est toujours très intéressant de discuter avec un œnologue, il m'a dit, l'œnologie n'explique pas tout. Pour faire très très rapide, il y a quelques critères qui peuvent éventuellement orienter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des terroirs calcaires, on retrouve les caractéristiques pour la truffe aussi, de l'acidité et ce qu'on appelle un élevage et un milieu réducteur, c'est-à-dire que les vins ne s'oxydent pas, ils restent comme ça à l'abri de l'oxygène et ils peuvent éventuellement développer ces arômes de truffe au vieillissement. Ce sont des arômes qui n'apparaissent que au vieillissement, jamais avant, très rarement avant. Et il y a par exemple dans la Loire avec le Chenin, dans la Loire centre avec le Sauvignon, aussi beaucoup à Jurançon, voilà. C'est des endroits où on peut trouver. On n'explique pas tout, on sait simplement qu'on retrouve le diméthylsulfure dans le vin, qui est cette, qui est l'arôme, dont Eric va certainement nous parler tout à l'heure, qui est une des molécules responsables de l'arôme de truffe. Je termine juste en vous disant, allez à la cave insolite à Mont-Louis-sur-Loire, chez François-Emmanuel Achidène, et vous pourrez acheter des vins exceptionnels d'une appellation tout à fait remarquable.
C'est un des vignerons que vous connaissez le mieux, François Achidène, et ouais, vous avez eu la pudeur jusqu'à maintenant de ne jamais nous en parler.
Non, c'est la première fois que j'en parle, et c'est un vigneron que j'aime énormément.
Et on vous comprend, on se régale avec cette cuvée 2008. Posons quelques mots rapidement sur le goût de la truffe. Il vient d'en parler évidemment à travers les arômes truffés de certains vins. Les scientifiques, j'imagine, se sont penchés sur la question, Jean-Charles Savignac.
Oui, bien sûr. Et on distingue le goût de, il y a toutes sortes de sens qui sont impactés par la truffe. Alors il faut bien distinguer le goût qui provient de la perception par la bouche, la perception nasale, sont deux choses différentes. Et puis il y a la langue qui intervient également. Alors après, derrière tout ça, le goût de la truffe est très variable selon l'état de la truffe, selon la période où on la récolte et où on la consomme aussi. Hein. Donc voilà.
C'est quelque chose de très musqué, de très prégnant, de très intense. Il est compliqué de mettre des mots sur le goût de la truffe,
Stéphanie. La truffe n'a de goût, enfin c'est le goût de la truffe.
Ben oui, voilà, c'est ça le problème.
Très compliqué d'y mettre des adjectifs. La terre, évidemment, il y a ce côté très très rattaché comme ça, très profond. Moi, je trouve qu'il y a presque parfois un côté, en fonction de quand on l'associe, umami presque. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de très puissant qui va venir tapisser, qui va venir presque prendre le pas. Donc il y a beaucoup d'intensité dans la truffe.
Une dimension animale aussi, un peu.
Et une dimension animale, un peu cuir.
Non, on est vraiment dans la forêt avec tout ce que ça comporte.
Ouais. Les réactions se bousculent sur notre mail, cher Eric. Un petit échantillon.
J'ai rarement vu autant de réactions. Nos auditeurs adorent la truffe. Pardon. Et nous disent, il n'y a pas que le Périgord. Alors, on nous parle évidemment de la Drôme, du Vaucluse, mais aussi d'autres régions un petit peu moins connues, le Bugey, la Lorraine, la Beauce même, évidemment le Quercy.
Le Berry?
Le Val-de-Loire, le Berry, autour de Chinon. C'est-à-dire que la trufficulture s'étend de plus en plus.
Partout où il y a des conditions climatiques et des natures de sol, on l'a pas dit, mais c'est important, évidemment, c'est le calcaire qui sert de support à la truffe.
Exactement, il y a une cinquantaine de départements français qui produisent de la truffe noire actuellement.
Parle de la mélanosporum.
Et on parle de la mélanosporum, absolument. C'est très réparti, et effectivement, donc l'appellation truffe du Périgord correspond à l'appellation tuber mélanosporum actuellement. C'est un héritage historique, les scientifiques ont validé ça. Donc effectivement, il faut faire très attention.
La truffe du Périgord, c'est pas une origine, c'est vraiment le nom d'une espèce, c'est un nom vernaculaire.
C'est devenu un nom vernaculaire maintenant. Et effectivement, après, il y a beaucoup de régions françaises qui ont des truffes d'excellente qualité. Il faut pas se le nier. Et les marchés que vous citez dans le Bélier, dans d'autres zones moins connues, sont excellentes aussi.
Vous l'avez dit, la Provence. Moi, j'ai travaillé 8 ans en Provence et j'avais le ramasseur qui m'amenait les truffes, et là c'était merveilleux.
Vous observez des différences de qualité, c'est plus selon les millésimes qu'il y a des différences de qualité que selon les terroirs.
Oui, c'est plus en fonction des millésimes, parce que le terroir, effectivement, joue pas énormément sur la truffe. Et d'ailleurs, je défie quiconque à l'aveugle de goûter des truffes de terroir différents à pleine maturité.
C'est ça.
Et d'arriver à en dire le terroir.
Il y a d'excellentes truffes en Périgord, il y a d'excellentes truffes en Provence également, mais comme il y en a de qualité moins bonne aussi.
Donc. Parce que moi, à Périgord, on m'a dit, Jean-Charles Savignac, qu'il y avait que la truffe du Périgord, mais au sens de lieu, qui valait la peine.
On est un peu chauvin.
Oui, c'est ça, vous l'avez remarqué. En tous les cas, le Périgord est évidemment très concentré sur la truffe, dans ses traditions paysannes, dans sa gastronomie, et ça, on ne peut pas le nier. Deuxième recette de notre amie Stéphanie Lequelec, ça y est, la dernière touche a été apportée.
Je suis en train de finir.
Ces deux assiettes, racontez-nous.
Bah, un petit couscous un petit peu à la française, un couscous de quinoa, j'ai choisi.
Ça va plaire à Jérôme,
quinoa,
ça.
Ah,
le quinoa de Jérôme.
Du Pays de Caux, un quinoa cauchois qui est...
Un quinoa made in France.
Yes, qui est produit pas très loin de...
Écoutez le Gagnèse, on sait que c'est un peu le réac dans la bande qui va nous expliquer que le quinoa c'est une céréale, c'est d'ailleurs pas une céréale botanique.
Non, c'est pas une céréale. Mais
c'est réservé aux poules, quoi.
C'est une plante, mais donc voilà. Donc après, évidemment, je l'ai cuit à l'eau salée, classique. Et puis, attendez Eric, il manque une petite touche, pardon, que... Si je veux que Jérôme Gagnès goûte le plat, il faut que je mette un peu de jus de viande, vous comprenez, parce que sinon on va pas y arriver.
Oh là là, regardez-moi ce jus bien sirupeux, assez sombre. On devine qu'il est particulièrement umami. Vous évoquiez ce mot tout à l'heure, Stéphanie Lequelec. Et là,
ce quinoa.
Et l'assiette atterrit comme par miracle
chez Jérôme Gagnès.
Par l'entremise d'Éric Morin, sous le nez de Jérôme.
J'ai au moins un ami sur ce plateau.
Dégustation en direct, Jérôme, s'il vous plaît, vous allez changer d'avis sur le quinoa.
Ce quinoa cuit à l'anglaise au salé, assaisonné après d'une petite vinaigrette à la truffe, toujours un petit peu de Xérès de truffes, évidemment.
Et là, on voit que vous n'en avez pas mis non plus des tonnes.
Non, il y a une dizaine de grammes par assiette qu'on va se partager. Et puis dessus, j'ai mis des petites merguez. Alors moi, j'ai fait des merguez maison à base de chair de pigeon. Mais chez vous, à la maison, évidemment, une très bonne merguez traditionnelle achetée chez un artisan. Et puis un petit peu de truffe pour surmonter tout ça. Alors j'ai joué avec un petit coulis de truffe, une petite harissa maison et un petit coulis menthe coriandre.
Oh voilà. La vache, c'est bon. Et contrairement à ce que pense Jérôme Gagnez, le quinoa est extraordinaire par sa texture, hein, légèrement bien croquante sûr, et moelleuse.
Ça résiste un prodigieux. Tout petit peu plus qu'un grain de semoule de couscous, je trouve intéressant. Alors, et puis ce qui m'intéresse, pardon, c'est l'alliance truffe et épices. C'est pour ça que j'ai joué la merguez, la harissa, parce que je trouve que la truffe noire marche merveilleusement bien avec l'épice.
Et elle a assez de caractère pour tenir tête.
Absolument.
À d'autres condiments de fort tempérament.
Absolument. Donc la truffe, c'est une des choses les plus musclées pour arriver effectivement à jouer avec des ingrédients forts.
C'est ça. Alors, un petit mot, Jérôme?
Oui, non, il faut bien reconnaître que c'est très bon.
On a fait manger du quinoa, Jérôme.
Qui ne change pas d'avis.
Non, c'est très bon. Évidemment, tout l'accompagnement est remarquable. Donc, ça permet de.
Ça égaye.
Ça égaye le quinoa.
Mais vous avez tort sur le quinoa. C'est des préjugés. Ouvrez vos chakras, Jérôme, on vous le dit.
Je vais les ouvrir, c'est François, ça. Et ben, je vous promets.
Ça me fait très plaisir, et vous les ouvrez au fil de ces émissions, et on en est tout à fait content. Notre avocat gourmet, Éric Morin, risque d'assombrir un tout petit peu le tableau de la truffe, qui est déjà bien noir. Hein. Eh bien, c'est ce qu'il va nous raconter, il va être question, vous allez voir, d'arômes de synthèse.
Sur France Inter, on va déguster.
J'avoue que je n'en peux plus les voir étalés sur les rayonnages, les publicités, les menus de mauvais bistrots et autres supports, le mot de truffe. Partout, tout le temps, en spray, en huile, sur n'importe quel produit. Une odeur lourde, surchargée, saturée, un mélange de gaz et d'haleine de lendemain, de mauvaise cuite, bref, j'ai la nausée. Quand on connaît la subtilité, quand on a goûté son parfum addictif et envoûtant d'épices et de musc, à cette alliance miraculeuse d'une terre dense, d'un sous-bois de chêne, de noisetier, de charme, de tilleul et d'un air pur, comment peut-on encore, au mépris du consommateur, proposer des produits qui sont des véritables fumisteries?
Ah, et oui, pour reprendre le mot de Xavier Montet d'ailleurs, donc vous osez hein, employer le mot de fumisterie ou d'escroquerie.
Ah oui, carrément, parce que depuis 2012 seulement, la loi exige, alors que tout produit portant la mention truffé contienne un minimum de 3% de truffe. Et ce seuil descend à 1% quand il s'agit d'un produit étiqueté à la truffe.
Waouh.
Alors autant dire que c'est bien cette réglementation qui pose problème, c'est bien cette réglementation qui pousse les industriels peu scrupuleux à faire fi de leurs obligations, notamment en omettant sciemment d'indiquer le nom usuel, c'est-à-dire le nom en latin, de l'espèce de truffe utilisée. Et comme on sait, tous et toutes ne se valent pas.
Donc parfois c'est moins encore que 1%.
Alors on a des analyses faites par 50 millions de consommateurs notamment qui montrent que certains risottos ou pâtes ne contiennent que 0,017 voire, attendez, hein, 0,0044% de truffes, c'est-à-dire même pas rien, moins que rien, et pour un prix qui flambe, eh ben vous achetez rien.
Enfin rien, on achète quand même de l'arôme de truffe en fait.
Eh ben c'est compliqué, mais tout dépend de la dénomination. Alors la dénomination arôme de truffe, ou arôme naturel de truffe, ou encore aromatisé à la truffe, elle n'est possible que dans la mesure où l'ingrédient truffe est lui-même présent, ou bien l'arôme naturel issu de la truffe. Alors s'il s'agit d'un arôme autre qu'un arôme naturel de truffe, cette dénomination ne peut être que arôme, ou goût, ou saveur, truffe. Il n'y a plus le de truffe, puisqu'il s'agit d'un arôme au goût de truffe, mais non extrait du champignon. Alors les odeurs sont alors reconstituées artificiellement grâce à un délicat mélange de propylène, de glycol, de maltodextrine et tout un tas d'autres noms en Y, en Z et en H. Et pire, si l'arôme naturel est dit, l'arôme de truffe est dit naturel, c'est juste qu'il n'est pas issu de l'industrie chimique, l'étiquette doit le préciser, mais il n'y a toujours pas de vraie truffe dedans. Alors pour être clair, un arôme truffe ne contient pas de truffe. Et c'est tout simplement une supercherie légale qui permet aux industriels et aux mauvais restaurateurs de tromper le consommateur. Alors comme le dit le génial Patrick Duller, éleveur de truffes au domaine de Saint-Géry, dans le Quercy blanc, souvenons-nous qu'il y a trois erreurs qui coûtent bien plus cher qu'elles ne procurent du plaisir. 1. Acheter le produit le moins cher. 2. Aromatiser ses plats avec une huile de truffe. Les champignons bon sang ne font pas d'huile. Et les relever avec un arôme truffe. Il y a un dessin du dessinateur de presse Vooch que j'aime beaucoup. On y voit un homme tenu en joue par des tontons flingueurs et qui doit creuser sa propre tombe dans une forêt. Et alors qu'il creuse, il dit en se tournant vers les barbouzes, « Ça alors, c'est vraiment de la chance. Une truffe. Voilà. La truffe, c'est de la chance. C'est quelque chose de miraculeux. C'est beau parce que c'est rare et c'est magique quand on la coupe fraîche, cavée de la veille, avec ses petits rhizomes blancs qui forment comme les lignes de nos mains. Unique et miraculeux. On vous dit.
C'est ça. Et une petite cuvée pour boire de la truffe, mais de la vraie Tuber Melanosporum, oui. Une petite cuvée.
Je vous ai apporté une truffe, on est le nez en plein dedans, oui. D'une formidable vigneronne qui s'appelle Justine Vigne. Ça ne s'invente pas. On est sur la commune de Richerance. Richerance, c'est dans l'enclave des Papes, c'est dans le Vaucluse. C'est le plus grand marché aux truffes d'Europe.
Et un des épicentres français de la truffe, d'ailleurs.
Exactement. Et on a une alliance avec ce terroir de la truffe et ce terroir viticole. Elle est absolument formidable. Elle a créé son domaine. Elle a quitté le cahier des charges AOC. Elle est passée en biodynamie. Elle travaille ses sols à cheval. Elle vinifie en amphore. Et elle débute un projet d'agroforesterie dont Antoine Gerbel parlait d'ailleurs dimanche dernier. Elle produit 6 cuvées de caractère. Je vous en ai apporté 4. Et en magnum, parce que c'est effectivement le format préféré de Jérôme Gagnès. On goûte ici sa cuvée Ultreia. Ultreia, c'est l'adage des pèlerins de Compostelle. C'est un grenache matiné d'un tout petit peu de cinceau. C'est un pur jus gourmand. C'est un miracle aussi.
C'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme ?
Je trouve que c'est un très joli vin. Il y a un velouté de texture très méridional, avec une ampleur, un gras, un volume de bouche, et à la fois une fraîcheur due probablement à une petite pointe d'acidité volatile qu'on perçoit à peine, mais qui sauve le vin, qui le relève, qui le rend aérien. C'est comme des mini-vérins qui soulèvent le vin sur la langue pour soulager la langue. Donc, on a toute la saveur du vin, mais on a cette légèreté, ce côté aérien par cette acidité. C'est un très joli vin.
Comme c'est bien dit. Allez, on vous garde finalement, Jérôme Gagnès, dans l'émission. Évidemment, je vous pose la question, je connais la réponse, mais j'ose quand même. Jamais d'arôme de synthèse à la Seine,
non,
votre
jamais.
Restaurant.
Et en deux mots, le danger, c'est un peu avec comme les cafés
Stéphanie
en capsule,
quand
derrière, on reboit un vrai café. C'est-à-dire que le problème, c'est d'avoir un palais lavé avec ses arômes de truffe et que quand on trouve de la vraie truffe, on dit tiens, ça sent pas la truffe. Ben non, parce que c'est une autre saveur, c'est plus profond. Et voilà, donc jamais d'arôme, évidemment.
Il y a aussi l'arnaque de la truffe de Chine sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, Jean-Charles Savignac, mais écoutez d'abord ce que nous a dit notre trufficulteur Xavier Montet.
La truffe, c'est la truffe. Et effectivement, on peut trouver les molécules, essayer de faire des molécules chimiques pour se rapprocher de l'odeur de la truffe, mais c'est de la fumisterie. Quand on sait qu'en France, ils se vendent de la truffe de Chine, je prends l'exemple du département de la Dordogne, parce que je connais un petit peu les chiffres. Bon, je devrais peut-être pas le dire, mais ils se vendent 500 kilos de truffes tous les hivers dans les métros et pour mon cash. Qui les achète ? Est-ce qu'on a déjà vu une omelette aux truffes de Chine ? Non. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent de la truffe de Chine, de la Tuber Indicum ou de la Tuber Himalayens, un petit peu d'arôme, et hop, on fait une omelette à 35 euros. C'est du vol.
Jean-Charles Savignac, vous êtes d'accord avec Xavier Montet ?
Oui, tout à fait. On a des espèces de truffes en Chine qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Hein. Mm-hmm. Donc, comme
et on les fait passer pour des mélanos.
Voilà, comme l'a dit Xavier, c'est Tuber Indicum et Tuber Himalayense qui n'ont aucune des caractéristiques de saveur, de parfum que l'on trouve dans les truffes noires que l'on trouve en France actuellement. Donc, il est important qu'il y ait des contrôleurs dans les marchés qui écartent les truffes qui n'ont rien à voir avec la production européenne de truffes Melanosporum.
Et par rapport à l'utilisation des arômes de synthèse que dénonçait à juste titre Maître Morin il y a un instant, est-ce qu'il y aurait moyen de renforcer la réglementation ?
Ah, j'applaudis à deux mains sur son plaidoyer contre l'utilisation des arômes artificiels et chimiques, hein, c'est évident. C'est un drame pour la trufficulture de voir se développer ces arômes, hein, parce qu'il n'y a pas de truffes, vous l'avez magnifiquement dit. L'important, c'est de trouver maintenant une parade européenne, parce que nous sommes contraints de suivre les normes européennes aussi.
Il y a une question à laquelle on est obligé de vous la poser en deux mots. Stéphanie Leclerc, conserver la truffe, est-ce qu'on peut la congeler ?
On peut, c'est un champignon, c'est très riche en eau, ça va en modifier la texture, ça va lui donner ce côté très mou, ça va faire ça ressortir l'eau. Maintenant, ça permet de temps en temps de faire un petit risotto au printemps ou en été, quoi.
C'est ça, merci pour votre participation. Je rappelle le titre de votre très bon livre, Truffes et Trufficulture. C'est un livre de référence, Jean-Marc Olivier, Jean-Charles Savignac, Pierre Sourza, Fanlac, il y a tout, la culture, la science, tout pour éclairer ce fabuleux champignon. Et puis un autre livre référence publié en 2021, La truffe au cœur de nos sens. Renaissance, signé Jean-Claude Parnier. C'est aussi un excellent livre, je me suis régalé. La semaine prochaine, changer de vie avec le vin, en partenariat avec la Revue du Vin de France. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.